Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on est vers la fin, dans les deux dernières semaines de l'année liturgique. On a revécu tous les mystères de la vie du Christ, hein, depuis sa naissance jusqu'à sa passion, sa Pâque, son ascension et puis la Pentecôte. La semaine prochaine, on fêtera la solennité du Christ, roi de l'univers, où sa royauté sera vraiment établie éternellement. Et puis on recommencera un cycle pour nous faire avancer, pour nous convertir encore avec l'avant et l'attente du Messie, du Sauveur. Et en fait, l'Église dans ce temps-là, un peu charnière, entre deux années, aime bien méditer sur la fin, sur toutes les fins qui marquent notre monde. Il y a la fin du Christ, bien sûr, sa propre mort, dans le sens où, là, on est au chapitre 13 de l'Évangile de Marc. Le chapitre 14 commence avec le complot contre Jésus et puis l'agonie à Gethsémani, etc., jusqu'à sa passion, sa mort sur la croix et bien sûr sa résurrection. Qu'est-ce qu'il y a comme fin aussi? Il y a notre propre fin, notre propre mort. Ça intéresse l'Église et puis ça intéresse l'Écriture. L'Écriture a une lumière particulière à apporter sur notre propre mort. Et puis, il y a la fin du monde. Hein, on a entendu les lectures, notamment la première lecture du livre de Daniel, l'Évangile, ont une tonalité un peu de fin des temps. Et donc, ça veut dire qu'on va regarder cet événement de la venue en gloire du Christ. Il est venu une première fois en humilité, caché sous les traits d'un petit enfant. Et puis, il reviendra en gloire, avec grande puissance. Et il révélera tout, il mettra tout en lumière. Toute notre vie, toute la vie, toute l'histoire du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la fin? Certainement pas pour relativiser la vie d'ici-bas. Regarder l'au-delà, ça ne relativise pas notre vie d'ici-bas. Ça lui donne une densité particulière. Vous voyez, relativiser, c'est peut-être le reproche qu'on a fait au christianisme, au siècle dernier, au 19e siècle également, à travers les réflexions de Nietzsche, de Marx. Ils ont dit, mais en fait, vous les chrétiens, vous regardez l'au-delà, vous dites la vraie vie, c'est dans l'au-delà, c'est au ciel. Donc, vous relativisez notre vie d'ici-bas, qui a quand même sa richesse, qui a sa densité, qui a son propre poids. Et donc, du coup, on ferait d'un christianisme un peu un médicament antidouleur, un peu un baume sur le cœur qui nous permet de bien vivre nos souffrances d'ici-bas, mais en fait, c'est pas grand-chose. Et en fait, ce qu'on attend, c'est la vie dans l'au-delà. Là, on fait une grave erreur. Il y a une vraie tragédie de la mort, mais ce que ça veut dire en positif, c'est que c'est la même vie de grâce, la même vie surnaturelle qui est semée ici-bas et qui est déployée dans l'au-delà. Les théologiens font souvent cette comparaison, ils disent qu'il y a plus de différence entre un non-baptisé et un baptisé qu'entre un baptisé et un bienheureux. Typiquement, nous, on aurait fait l'inverse. Mais il y a plus de différence entre un non-baptisé et un baptisé qu'entre un baptisé et un bienheureux pour dire que c'est la même vie de grâce que nous vivons ici-bas et qui sera déployée, glorifiée dans l'au-delà. C'est la même vie. Nous sommes déjà ressuscités par le baptême. Parler de la fin, en fait, ça nous fixe. Ça, c'est un point positif, c'est que ça nous détermine. Notre volonté, notre liberté se détermine. Sinon, on serait dans une indétermination indéfinie et c'est insupportable. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait déjà cette expérience d'avoir un grand projet, de mener ce projet à bien, d'arriver au dernier jour de ce projet, il y a une joie qui nous est donné. Je sais pas, vous avez prévu de rénover votre maison, ça vous prend 6 mois, 1 an, 3 ans, peu importe. Vous arrivez au dernier jour, c'est l'accomplissement. Il y a une joie qui est donnée. Donc en fait, parler de la fin, pourquoi? Parce que ça nous accomplit. J'ai passé 1 an et demi à écrire un mémoire, 100 pages sur 20 versets de la Bible. Ben, le dernier jour, j'étais heureux. Quand j'ai rendu ça à mon professeur, il y avait une joie, il y avait un accomplissement. Donc parler de la fin, ça nous accomplit. Regarder la fin aussi, ça permet de mieux vivre le présent, de le comprendre et peut-être de le densifier. Je m'explique. voyez, si je comprends que je suis fait pour le ciel, que le Christ reviendra, ben ma vie, elle est orientée, elle a un but. C'est ce qu'on dit en préparation de funérailles. Notre vie, elle a un but, elle est orientée, et il ne faut pas perdre cette orientation. Sinon, c'est comme si on prenait notre voiture, on ne mettait aucune adresse dans le GPS, et puis on part au petit bonheur à la chance. C'est vide. On a le droit de se promener comme ça au petit bonheur la chance, surtout dans une Bretagne automnale, c'est magnifique, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas notre mode habituel de prendre la voiture, c'est ça que je veux dire. Voyez, je pense que c'est une sortie de l'enfance que de penser à cette échéance, que de regarder cette échéance, et donc ça densifie notre présent, notre vie présente. Alors, comment est-ce que l'Évangile parle de la fin ? Alors, elle en parle en termes de tribulation, de détresse, de persécution. En fait, ce n'est pas encore la fin. Des détresses, il y en a de tout temps. C'est un écrit un peu particulier dans la Bible, ça s'appelle l'Apocalypse, où en fait, on écrit quelque chose pour une communauté. Pour Daniel, c'est une communauté juive qui est persécutée par le roi grec Antiochus, qui vient profaner le temple, qui vient détruire Jérusalem, qui vient saper tout le moral du peuple d'Israël. Du temps des disciples de Jésus, c'est la persécution par les Romains et par les Juifs. Et donc du coup, il y a cet écrit particulier qui est là pour exhorter, qui est là pour consoler le peuple et pour dire restez dans la droite ligne, restez dans la fidélité, dans la foi au Dieu vivant. Voilà, ça s'appelle l'Apocalypse. Et donc ça veut dire pour nous pas de catastrophisme. Et quand vous voyez toutes ces guerres et tout ça, et en fait on pourrait réécrire une apocalypse, mais des apocalypses il y en a eu de tous les temps. C'est là pour exhorter. Et cette parole, elle est vivante. La parole biblique, elle est vivante. Donc, elle est aussi pour notre temps. Donc, pas de catastrophisme et pas de surinterprétation des signes des temps. Pourquoi est-ce qu'on surinterprète les signes des temps ? Parce qu'en fait, on veut maîtriser la fin. On veut maîtriser notre propre fin, la fin du monde. Ce qui est vraiment le signe que nous sommes vraiment fils, c'est que nous ne connaissons pas la fin. Je m'explique. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. L'ignorance est la marque de la filiation. Je ne connais pas parce que j'abandonne en fait cette fin. J'abandonne cette maîtrise finale de ma propre fin. On le comprend avec les projets d'euthanasie, etc. Pourquoi c'est si prégnant ? Parce que les gens veulent maîtriser leur fin. L'attitude d'ignorance, c'est l'attitude filiale. Comment est-ce qu'on parle aussi de la fin ? Je développerai encore deux points. Peut-être en termes de destruction et de déconstruction du monde, le ciel et la terre passeront. D'accord, ça passera. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont, etc. Le ciel et la terre, ça sert à quoi ? Ça sert à nous repérer dans l'espace, le ciel et la terre. Le soleil et la lune, ça sert à quoi ? Ça sert à nous repérer dans le temps. Ça sert à rythmer le temps. Et à rythmer aussi notre liturgie. Donc si tout cela passe quand le Christ vient, ça veut dire que tout est récapitulé dans le Christ et il n'y a plus besoin d'espace-temps. On passe, vous voyez, de la liturgie, du symbole, du sacrement à la réalité elle-même. On n'a plus besoin de calculer quand est-ce qu'on va fêter Pâques en fonction des lunes, etc. Et on ne sait jamais comment calculer, de toute manière. On n'a plus besoin d'espace pour se retrouver, pour être en communauté, pour se retrouver dans une église, pour prier ensemble et pour célébrer la messe. Il n'y aura plus de messe, il n'y aura plus tout ça. Il n'y aura plus d'adoration perpétuelle. Parce qu'on aura Dieu. Parce qu'on aura Jésus face à face. On passera de la liturgie, du symbole, du sacrement, à la réalité elle-même. Et en fait, le Shabbat, se retrouver ici le dimanche, ça anticipe déjà cette éternité. Ça densifie le temps parce que ce temps, il est dévolu à Dieu. Il est abandonné à Dieu. Il est concentré rien que pour Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez le ciel, mais le ciel n'est pas un grand ennui d'adoration perpétuelle de 2h à 6h du matin. C'est long hein, d'adorer de 2h à 6h du matin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai déjà adoré toute une nuit avec des jeunes dans une basilique. C'est à la fin, on ne sait plus quoi faire. Hein. On a plutôt envie de faire un footing que de rester en présence du Seigneur. C'est une grande aventure, le ciel. C'est pas un ennui. L'ennui, si vous voulez goûter l'ennui, c'est l'enfer. Hein. Ça, c'est pour le coup, c'est l'ennui. Le ciel, c'est une aventure, c'est une rencontre, c'est un progrès. C'est un progrès perpétuel, le ciel. Comment est-ce qu'on va préparer cette fin? Qu'est-ce que ça nous dit, en fait? C'est que si le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Les paroles du Christ ne passeront pas. Le soleil, la lune, les étoiles, le firmament, les étoiles dont nous parle encore Daniel, tout ça, ça nous fait penser à la création, ça nous fait penser à la Genèse. Et il dit, mais en fait, tout ça va passer, mes paroles ne vont pas passer, et ceux qui auront accueilli mes paroles, les justes, eh ben, ce seront eux, le firmament et les étoiles. C'est ce que dit le prophète Daniel. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on sait que dans la Genèse, tout a été créé par la parole de Dieu. Dieu dit et cela fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein? Donc Dieu parle pour créer. Les paroles ne passent pas, ça veut dire que dans mon rapport à la parole de Dieu se joue quelque chose de ma recréation. J'ai à accueillir la parole de Dieu pour ce qu'elle est, parce qu'elle est vivante, pour être recréée sans cesse, être dans une nouveauté sans cesse. Ne pas lire la parole de Dieu pour lire la parole de Dieu, parce que c'est bien de lire l'évangile du dimanche avant qu'on le lise, avant d'arriver à la messe, c'est pas ça. C'est en fait se laisser relire par la parole de Dieu. Moi, j'ai fait cette expérience en séminaire. Je travaillais, je passais des heures à travailler la parole de Dieu. Et en fait, j'avais plus l'impression que c'était la parole de Dieu qui me travaillait. Donc, se laisser relire par la parole de Dieu. En fait, si je regarde la vie des saints, je vois que les saints sont des évangiles vivants. Les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'évangile à la lettre. Si je regarde la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh ben je vais lire ceci à l'Évangile. Hein. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Elle a pris cet Évangile à la lettre. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on doit essayer de faire, de se dire, mais quel est mon Évangile? Quel Évangile je vais prendre à la lettre? J'ai le droit d'en choisir un, j'ai le droit de choisir un ou deux versets, à peine. Parce que je sais que cette parole, elle est vivante, elle est dense, et tout est concentré dedans. J'ai le droit de prendre cet évangile-là, de me choisir un évangile que je vais ruminer. On va se poser 4 questions sur l'évangile qu'on va choisir. On n'est peut-être pas l'évangile d'aujourd'hui. Hein. Benoît XVI, il dit que c'est l'évangile le plus compliqué. Donc si Benoît XVI le dit, je pense qu'on peut le croire. Et je pense que pour nous aussi, c'est un peu compliqué. Prenez un évangile facile qui vous parle, qui vous touche le cœur. On va se poser 4 questions. Que dit le texte? Que dit en soi le texte? Que dit le texte? Ça, c'est la tradition de la Lectio Divina qui nous apprend ces questions-là. C'est pas sorti de mon chapeau, c'est la méditation de l'Église. Ensuite, deuxième question, que me dit le texte? Le texte, il parle, d'accord, il parle pour un certain temps, mais cette parole, elle est vivante, elle me parle aussi à moi. Ensuite, troisième question, qu'est-ce que je vais dire en retour au Seigneur à partir de ce texte? C'est ce qu'on appelle l'oraison, je vais prier. Le meilleur exemple, c'est la Vierge Marie, qui dans son Magnificat, vous regardez à chaque ligne, c'est une méditation de la parole de Dieu. C'est une citation de l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau, et en fait, elle ne fait que parler de la parole de Dieu. Elle a réappris à parler grâce à sa méditation de la parole de Dieu. Quatrième question, quelle conversion de l'esprit, du cœur, de ma vie, de mon action, voilà, dans ma famille, dans mon travail, etc., est-ce que cette parole suscite en moi ? Je répète, que dit en soi le texte ? Que me dit le texte ? Qu'est-ce que je vais dire en retour au Seigneur à partir de ce texte ? Et quelle conversion à laquelle le Seigneur m'invite ? Voilà, accueillons bien cette parole, cet évangile qui nous donne la vie. Amen.